À première vue, Pierre-Philippe Cader.
Frédéric Maillard, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien.
Très bien. Yves-Patrick Delachaux, comment allez-vous ?
Très bien.
Très bien aussi. En vadrouille, Yves-Patrick ou...
Oui, ben je rentre de nouveau plusieurs mois de réflexion et de voyage. Ça compte dans ma vie aujourd'hui, depuis 2 ans, le voyage, la réflexion, l'écriture et l'expertise de police.
Et quant à Frédéric Maillard, alors vous êtes à la tête de beaucoup de choses et nous expliquez ça.
En tout cas, je rentre de nulle part, si ce n'est des préoccupations et des aspirations des policiers de terrain que je ne cesse d'entrevoir maintenant aussi depuis plusieurs mois.
Alors, vous faites beaucoup de choses, Frédéric Maillard. C'est assez difficile d'expliquer votre métier. C'est d'ailleurs très symbolique de notre époque où tout le monde a des métiers très divers et variés qui s'accordent dans une seule vie, finalement. Vous avez fondé des start-up. Vous êtes essentiellement un homme de communication, on peut le dire, de résolution de conflits.
Oui, donc de résolution managériale d'abord. C'est vrai que mes qualifications professionnelles comme mes exercices professionnels sont des chassés-croisés. Mais j'aime bien cela. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut venir d'ailleurs pour résoudre. Hein, c'est cette pluridisciplinarité.
Vous êtes didacticien.
Oui, ça c'est mon métier, c'est-à-dire que je m'applique à transmettre un enseignement différemment qu'on puisse le faire de façon conventionnelle. Aujourd'hui, avec l'audiovisuel, on peut effectivement varier les enseignements qui sont de l'ordre de la didactique. Hein. C'est la forme qui compte autant que le fond. Alors si on a un fond qui nous convainc, qui nous mobilise, il vaut la peine de s'appliquer pour la forme, donc de faire intervenir des témoins, de faire intervenir de l'audiovisuel, d'aller sur le terrain avec les étudiants, de faire du laboratoire, de l'exploration.
Ça évite de les endormir avec des présentations PowerPoint ?
Exactement.
Voilà. Frédéric Maillard, vous avez rencontré un beau jour, je ne sais pas quand, mais vous allez nous raconter ça, Yves-Patrick Delachaux. Vous êtes un ancien objecteur de conscience, enfin on reste objecteur de conscience toute sa vie, donc on n'est pas ancien objecteur de conscience. Vous êtes engagé très tôt dans l'humanitaire, on peut le dire, vous aviez 16 ans. Quant à vous, Yves-Patrick Delachaux, vous avez connu tout d'abord une carrière militaire, puis dans la police. Alors comment vos deux univers, en apparence si différents, se sont-ils rencontrés ?
Techniquement, c'est une rencontre en serrant la main et en se retrouvant sur un terrain de connaissance. Dans le fondement, c'est que je m'aperçois aujourd'hui avec du recul qu'en tant que policier, avec certaines responsabilités, notamment d'accompagner l'éthique et les droits humains pour la police genevoise et les polices romandes à cette époque-là, on vient de parler de la forme et du fond, j'étais pas dans le fond, j'étais vraiment que dans l'emballage. C'est une des caractéristiques du métier, c'est-à-dire que finalement que ce soit au niveau des apparences, des statistiques, de la bienséance, il faut que les choses paraissent, mais travailler dans le fond, dans le fondement du métier, dans le fondement de la sécurité, dans le fondement de la société, aujourd'hui avec du recul, je m'aperçois bien que j'avais pas été formé pour, que jamais j'avais abordé ces questions. Et là, la rencontre avec Frédéric Maillard, à mon sens, a été décisive. On s'est rencontrés sur le terrain des droits humains, pour moi, d'abord dans une sorte d'enveloppe un peu extérieure, avec une nécessité d'aborder un champ que je connaissais peu, et j'ai rencontré un homme extrêmement profond qui m'a amené sur un champ de philosophie, mais sur un champ en disant, mais finalement au fond de toi, qu'est-ce que c'est qu'être policier, quel est ton métier, et j'ai été incapable de lui répondre à ces mots. Et voilà, le chemin depuis 4-5 ans à peu près s'est fait, s'est éclairci petit à petit, à un point qu'aujourd'hui nous écrivons ensemble, nous réfléchissons ensemble et nous menons des expertises en Europe.
Alors des expertises auprès de la police. Si on devait dresser un état global du fonctionnement des polices en Europe, qu'est-ce qui a changé en 20 ans ? Parce que me semble-t-il, à vous lire, il y a une sorte de fracture tout à coup.
La fracture, je dirais, c'est la première fracture, c'est la prise en compte de la souffrance. Et donc, d'avoir en face, je reviens à l'objection de conscience, on peut dire, mais qui, au fond, n'objecte pas aujourd'hui ? Tout le monde objecte. À chaque fois que vous ne vous laissez pas faire, que vous refusez qu'on vous livre un produit avarié, qu'on vous livre un produit non conforme à vos attentes, vous êtes en objection de conscience, n'est-ce pas ? Donc, l'objection de conscience, c'est effectivement une attitude aujourd'hui qui est admise, on le voit, sur le plan politique, on a des alternatives, il vaut la peine de les développer, puis l'objecteur n'est pas un ennemi, est quelqu'un avec qui je peux composer et m'enrichir. La police, c'est ce chemin qu'elle a fait, hein, c'est-à-dire cette idée de s'extérioriser, cette idée de prendre conscience qu'elle ne peut pas tout résoudre elle-même, qu'elle a besoin alors d'abord des disciplines scientifiques. On voit de plus en plus apparaître des compétences scientifiques dans la police. Et puis aujourd'hui, on admet qu'il faille des compétences psychologiques, philosophiques, toutes les compétences sociales. Et ça, je crois que c'est le grand changement. Mais un changement qui a peine à s'entretenir. Hein. Nous y reviendrons sans doute.
Yves-Patrick ?
Oui, si vous parlez des 20 dernières années, j'ai un constat un peu plus difficile à faire dans la mesure où on m'a volé mon métier. Ou en tout cas, on a volé le métier aux policiers et on a volé la sécurité aux citoyens. Le métier policier...
Par qui a-t-il été volé ?
Je pense notamment... D'abord répondre par le fait que le métier policier n'a pas su évoluer avec son temps et les nouveaux défis. Effectivement, il y a peut-être 20, 25 ans, 30 ans peut-être, 25 ans peut-être, n'a pas su relever les défis sociaux qui se présentaient à lui. Donc social dans un cadre de sécurité par exemple. Volé par qui ? Nécessairement par l'ambiance sécuritaire, par le plus de sécurité, par la peur, la crainte, la migration, les crises, certainement là encore la chute des blocs qu'on a si bien connus avant la chute du mur de Berlin y est pour quelque chose. Enfin, il y a des réflexions qui des métiers ont dû aborder que la police dans sa tour suffisante. Certainement parfois arrogante vis-à-vis du reste des autres professions n'a pas su aborder. Résultat, c'est qu'aujourd'hui c'est une nécessité urgente d'aborder la société, l'Europe, le monde, la diplomatie. Enfin, il y a des tas de sujets que les corps de métiers, les corps de police doivent entreprendre. Et c'est là où la rencontre avec d'autres univers professionnels, d'autres penseurs. Comment on peut imaginer, il y a encore quelques années, que la police allait tout d'un coup travailler avec un didacticien ou avec un philosophe, avec un économiste ? Ça se fait aujourd'hui petit à petit. Certains corps plus rapidement que d'autres. Mais le changement, il est là à notre porte aujourd'hui. Malheureusement, je dirais un peu en urgence.
Alors, vous avez quitté la police genevoise en 2008, c'est bien ça. Vous déclariez d'ailleurs à l'époque, c'est un métier qui nous tire vers le bas. Et vous estimiez n'être pas entendu par votre hiérarchie. Alors, vous précisez aussi dans ce livre, qui, je le rappelle, s'intitule « Policier gardien de la paix », une question posée en couverture. Vous précisez dans ce livre également qu'au fond, ce que vous mettez en cause ne sont pas tant les personnes, c'est la personne morale que vous mettez en cause, c'est l'institution. C'est-à-dire que, à l'intérieur de ce corps constitué, les personnes physiques comprennent bien les changements qui ont lieu autour d'elles, mais la personne morale, l'institution, elle ne réagit pas. Est-ce que vous avez une explication là-dessus ?
Oui, il y a deux raisons essentiellement. Donc, cet isolement dont parle Yves-Patrick Delachaux, à juste titre, moi de l'extérieur, j'ai pu le constater très clairement, il a une origine militarisée. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans l'histoire de la police, enfin des polices, puisqu'il y a la gendarmerie, il y a les polices judiciaires, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, eh bien, pour des questions d'organisation, notamment de franchissement des distances, on a encaserné les hommes, on les a armés et on a adopté une logistique militaire. Alors, elle est compréhensible dans l'opération d'urgence. Je crois qu'on n'a rien de mieux encore aujourd'hui, s'agissant d'une opération d'urgence où il faut obéir à des consignes très précises. Mais pour tout ce qui est l'amont, la prévention, l'organisation managériale, évidemment, c'est récurrent. Et c'est ce que nous condamnons. Et cela est très grave parce qu'on vole le métier, mais on le détourne. C'est-à-dire qu'on fait des agents de la paix, des personnes qui sont chargées de sauvegarder la paix, on en fait des pseudo-militaires, des militaires amateurs qui créent le trouble, somme toute. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est la gradation à l'ancienneté. Écoutez, quand je parle de ça, j'ai l'impression d'être projeté en arrière, dans les décennies, voire les siècles, à savoir, on grade à la police, aujourd'hui essentiellement, encore dans plusieurs corps en police, donc la majorité des corps, par l'ancienneté. Pas par la compétence, par l'ancienneté. Alors évidemment, vous perpétuez un isolement, une situation insulaire, comme on l'appelle dans le livre, on questionne. J'aimerais dire là que ce livre dresse le métier de policier.
Oui, ce sont 21 questions que vous posez.
21 questions, c'est pas de la polémique, c'est pas de. Ouais. Mais c'est des questions légitimes parce que pour toutes ces questions, elles ont été puisées dans les voix des policiers eux-mêmes. On a vraiment travaillé, Yves-Patrick Lachaud et moi-même, à donner la parole aux policiers et nous à être médias de ceux-ci. Voilà. Donc les deux raisons, militariser, gradation à l'ancienneté.
Ça, pour vous, c'est également le cas. Yves-Patrick Delachaux, vous faites, j'imagine bien, tirer le même constat, mais la gradation à l'ancienneté, ça vous posait un problème lorsque vous étiez dans la police genevoise?
Oui, même un problème majeur. Alors encore, il y a de certaines polices qui, je le disais tout à l'heure, fonctionnent sous un peu d'autres modèles, plus ou moins rapidement. Mais il est vrai que si vous pensez à la police genevoise, on est encore loin d'un schéma un peu plus moderne de ressources humaines. Maintenant... on partage beaucoup de sujets ensemble avec Frédéric Maillard et on a des positions on regarde dans le même sens, on n'a pas toujours le même constat, et je crois que c'est ce qui est intéressant quand nous sommes chercheurs ou experts, c'est de se confronter. Et principalement, c'est que je fonctionne beaucoup avec le ventre. J'aime cette image qui correspond beaucoup à mon écriture ou mon chemin aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est ce ressenti par rapport à une expérience vécue, mis en main d'un didacticien qui permet de travailler sur le cadre et d'amener plus loin que simplement un ressenti. Raison pour laquelle, vous l'avez évoqué, j'ai quitté effectivement la police, mais pour quelque part mieux l'intégrer, c'est-à-dire sortir d'un corps, assez fermé sur soi, sclérosé autiste, à mon sens, pour gagner une police européenne, pour gagner une sécurité citoyenne qui déborde des frontières de la police.
Parce la police européenne, elle existe ou pas?
Parce que non, vous pensez de façon structurelle, il y a Europol, on peut imaginer, mais il n'y a pas de police européenne.
Il y a maintenant, avec la Schengen, il y a des communications se font beaucoup plus facilement entre différents États.
Une excellente chose pour, effectivement, qu'il y ait des échanges de pensée et de philosophie. En tout cas, avec des blocs, je dirais, de police, des trois dominantes, anglo-saxonne, germanique et francophone, napoléonienne. Très intéressant. Quitter le monde de la police pour pouvoir parler, observer avec les citoyens la sécurité dans sa globalité. C'est un leurre de penser aujourd'hui que la police, comme corps, puisse régler les problèmes de sécurité. C'est un élément d'un chaînon de toute de structure à mettre en place. Je pense notamment à la mobilité. D'ailleurs, anciennement, nous parlions de tranquillité, salubrité, sécurité publique. Et certainement que là, il y a encore du travail à effectuer.
Alors, dans ce livre, vous faites beaucoup de propositions que nous allons détailler d'ici quelques minutes. J'aimerais qu'on insiste, ça nous laissera le temps de réfléchir d'ailleurs, parce que nous aurons une chanson de Tété, mais sur ce côté, je caricature un petit peu grossièrement, mais en gros, il faut à la fois des policiers de quartier, mais aussi un épicier de quartier qui a grosso modo un rôle de tempérance dans le dit quartier. On va réfléchir un petit peu là-dessus, mais auparavant, voici une information routière.
Infotrafic RSR.
On nous signale une palette sur la chaussée, sur l'autoroute Lausanne-Yverdon, entre les jonctions de Chavornay et d'Yverdon Sud, en direction d'Yverdon. Et voici Tété. Je vous rappelle que nos invités sont Frédéric Maillard et Yves-Patrick Delachaux pour ce livre qui pose 21 questions. Policier, gardien de la paix, c'est paru aux éditions de l'EB, dans la collection La Question. Voici donc Tété.
Il est de ses amitiés dont on ferait volontiers l'économie, mais forcé d'avouer de prime abord le spleen t'adore. Chaque minute son poison, clair-obscur à foison, sans rumeur ni raison. Si tu kiffes, sans dis long, les fissures, les bubons, sans rumeur ni raison, sans rumeur ni raison. Il est des drames, des émois, que tout quitte à ici-bas. Tente de terre, tant qu'à faire, mais pas toi, de prime abord. Le spleen t'adore, chaque minute son poison, l'air obscur à foison, sans rime ni raison. C'est ton kiff, ta passion, la mort sur des tisons, sans rime ni raison. Sans rime ni raison. Mmh.
prime abord, oublie ses morts. Chaque minute, son poison, clair obscur, un poison, sans émeune ni raison. Si tu kiffes, sans dilon, les fissures, les tisons, sans émeune ni raison. De prime abord, chaque minute, son poison, clair obscur, un poison, sans émeune ni raison. C'est tendu comme passion, la mort sur les tisons, sans émeune ni raison. Le spleen t'adore.
Vous écoutez à première vue, nos invités sont Frédéric Maillard et Yves-Patrick Delachaux pour ce livre, donc publié aux éditions de l'Eb, Policiers, gardiens de la paix. J'ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu une boutade, mais en fait, à la lecture de votre livre, ça ne l'est pas vraiment, qu'il fallait certes une police de proximité, mais que pour que la police de proximité fonctionne, et que donc on n'ait pas affaire à des guerriers armés jusqu'aux dents qui roulent dans des voitures pas toujours banalisées par ailleurs, dans des banlieues dont on dit qu'elles sont dangereuses, il fallait aussi l'épicier de quartier. Et qu'au fond, ce que vous proposez, c'est que c'est pas tout à fait le neighborhood watch à l'américaine, c'est-à-dire que les voisins se surveillent parmi pour éviter qu'il y ait des embrouilles,
surtout pas,
mais qu'au fond, tout le monde participe de la sécurité. Et alors, qu'est-ce qui fait que on est passé de la peur du gendarme au refus de coopérer, si je puis dire, et qu'il faille réinstaller aujourd'hui à la fois de la police de proximité, bon, bah, c'est parce qu'on l'a enlevé, je comprends bien, mais aussi aller voir l'épicier en lui disant, vous faites partie de ce dispositif de sécurité que nous installons dans le quartier, avec les risques que ça peut comporter dans certains endroits de la planète où on est vite jugé pour collaboration. Qui veut répondre ? Yves-Patrick Delachaux,
peut-être ? Oui, je veux bien me lancer, effectivement, avec mon statut de flic de quartier, qui a, pendant bien quelques années, traîné ses guêtres sur des trottoirs humains, je dirais, et populaires. Je peux pas du tout vous répondre sur un fait de société qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, il y a moins de communication entre les hommes et les femmes, et les enfants et les jeunes, et des défis générationnel. Il y a peut-être l'éducation qui rentre là au milieu, il y a le changement de société, enfin il y a mille choses et c'est en tout cas loin d'être mes formations, si ce n'est que en tant que père de famille, je suis très bien sûr attentif à ce qui se passe autour de moi. En tant que policier exclusivement, il y avait une certitude qui m'est apparue assez rapidement après quelques années de pratique, c'est que le policier travaille avec le conducteur de transport public, travaille avec l'épicier, travaille avec l'éducateur, avec la prof d'école, travaille avec les parents, bien entendu, travaille avec la voirie, avec une foule d'acteurs sociaux. En tout cas, les anciens me racontaient ceci, anciens policiers ou pas. Il y avait un tissu social, une époque, qui permettait aux gens, pas dans un sens d'observation et de délation, mais ça aussi, mais d'avoir des relations, de se mettre en tour de table, même si c'était avec une bouteille de vin blanc de la Riviera Vaudoise, par exemple, pour faire un peu de publicité de nos excellents vins. Mais il y avait des négociations et de la résolution de conflits sur des sujets de société. Aujourd'hui, j'ai connu une police, pour rester dans mon champ, qui s'est, au fur et à mesure des années, éloignée des autres corps professionnels ou de la population. Je dirais l'exemple qu'on voit dans tous les bons polars, films ou écritures, le flic qui travaille avec la pute et puis qui connaît le Mac et puis on y va bras dessus pour régler des affaires. Aujourd'hui, c'est quasiment plus comme ça et on l'oublie. On peut le regretter parce que la police, il suffit pas d'avoir de l'information et de se tenir informé, il faut obtenir du renseignement. Pour assurer de la sécurité, il faut mettre à contribution les acteurs sociaux. Quand il y a des salissures, quand les personnes ont un sentiment d'insécurité lié peut-être à justement à des vitres cassées, à des tags, à des agroupements de personnes, il faut pas imaginer que la police puisse juste venir mettre des contraventions et que le problème est réglé. C'est bien parce que il y a immédiatement, de façon très rapide, et ça pose après une question des problèmes institutionnels pour que ce soit rapide, que celui qui constate quelque chose puisse, dans une chaîne de réactions, engendrer une foule d'acteurs sociaux qui tout de suite tentent, en tour de table, de résoudre le problème. Et on le voit quand on le fait. Alors, c'est là où on a beaucoup parlé de police de proximité. Au-delà de la police de proximité, j'essaie de parler de citoyenneté de proximité pour que tous se mettent à contribution. Et l'épicier, il a un rôle extrêmement important.
Mais quelle est la différence avec le Neighborhood Watch, justement, cette surveillance mutuelle de voisins? Au fond, elle est où la différence pour vous?
Alors la différence, elle est dans le pouvoir et le partage du pouvoir. Le policier détient deux pouvoirs exclusifs et exceptionnels. S'il les garde pour lui, ces pouvoirs vont l'emporter dans la dérive, l'emporter dans la délation, l'emporter dans les exactions, comme cela se trouve toujours aujourd'hui. Alors que s'il partage ce pouvoir par coopération avec les autres acteurs sociaux, eh bien, ce pouvoir est maîtrisé. Il n'est plus le seul à le représenter. L'assermentation revient à la population. La population fait confiance aux policiers.
Assermentation symbolique, bien sûr.
Oui, mais l'assermentation qui est confiée aux policiers n'est pas symbolique. Hein. C'est, je le jure, parfois même dans certains cantons, au sein d'une cathédrale, avec tout ce que ça représente comme élévation spirituelle, comme finalement aussi soumission à un pouvoir encore plus grand, plus céleste pour le policier. Donc il est bien en délégation d'un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le premier organe de l'État démocratique qui le confie, le peuple. Et si le peuple peut récupérer ce pouvoir partiellement, par le partage des tâches, par son implication dans la surveillance d'un quartier, effectivement, le policier est alors en maîtrise de ses pouvoirs. Et on n'aura plus à craindre, ou en tout cas beaucoup moins, évidemment, il n'y a pas de garantie, à ce que ce pouvoir ne soit pas proportionnel ou devienne discriminant, comme nous pouvons le constater en certains cas. Donc là, il y a une alchimie très très importante, hein. Policier, service public, le public participe au travail de police. Ça évite, aussi à ce que l'on invente une multitude d'auxiliaires de police qu'on recrute dans des compagnies privées, des pseudo-policiers, on ne sait plus qui quoi, à tel point que la population s'y méprend.
Alors c'est un problème assez crucial dans certains endroits de cette planète. On va pas aller très très loin d'ailleurs, on va aller en Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, Yves-Patrick Delachaux, puisque vous vous y êtes rendu à de nombreuses reprises. Vous avez fait une mission d'observation au sein de la police locale en Seine-Saint-Denis. Vous étiez très surpris tout d'abord en arrivant là-bas, parce que ça ne correspondait pas nécessairement à l'image que vous en aviez au travers des médias ou de ce qu'on vous avait raconté. Mais surtout, la question qui se pose, c'est que quand on regarde un reportage sur une cité qu'on appelle sensible dans ce département de Seine-Saint-Denis, donc le 9-3, comme on dit. On apprend que tous les commerces sont fermés, on apprend que les ascenseurs ne fonctionnent pas, que c'est quasiment Kaboul en état de siège ou South Central Los Angeles et que les gamins sont armés jusqu'aux dents. Alors comment en est-on arrivé là? Et puis surtout, comment installer une police de proximité qui demande l'assentiment de la population pour que ça fonctionne bien dans un endroit où, par exemple, il n'y a plus d'épiciers?
Vous avez tout à fait raison. Et tout d'abord, quand on dit qu'on souhaite installer une police de proximité, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui en Europe, notamment en France, et qui touche largement les pays frontières, on est dans un processus inverse. C'est-à-dire que nous sommes dans un tout sécuritaire. La police de proximité ne cesse de diminuer depuis 2002 à peu près. Et puis chez nous, en Suisse, on peut le constater aussi, à part à quelques rares, surprises. Aussi, par la demande, c'est toujours très pervers tout ceci, c'est que tout d'un coup, souvenons-nous de ces belles paroles dites par quelques responsables politiques en disant mais finalement un flic il est là pour faire des interpellations des gardes à vue, il est pas là pour jouer au football avec des jeunes, il est pas là pour résoudre des conflits sociaux qui lui appartiennent pas. Dire ça, c'est une méconnaissance magistrale de la sécurité. Et un déni de la profession policière.
C'est ignorer que Maigret était un fin sociologue.
Mais c'est ignorer la vie en communauté. Ça peut venir que de personnes qui ne sont pas en confrontation avec finalement peut-être de la délinquance, des difficultés sociales, des recherches d'emploi ou autre. Bien, bref, ma surprise, vous me posez la question, c'est que sur deux points. C'est tout d'abord arriver en Seine-Saint-Denis, d'observer vis-à-vis du comportement policier l'accueil qui m'est réservé. Je rentre dans une logique d'armée d'occupation. C'est-à-dire que la police est très éloignée du citoyen dans ce type de configuration banlieue française, par exemple,
et se retrouve cette banlieue-là.
cette banlieue particulièrement. Il y en a d'autres, hein. Ouais. Mais cette banlieue, ben, on va dans le 9-4, on est dans ces mêmes configurations. L'idée, c'est que petit à petit, quand je parlais de voler le métier policier, petit à petit, on en est arrivé à voir des commissariats complètement fermés sur soi, avec des barricades et des grillages qui ferment les fenêtres, etc. Il y a d'avoir des policiers qui sortent en véhicule à 4 au minimum et jusqu'à 16 ou voire 60 policiers et qui sont complètement détachés et déconnectés de la réalité dans laquelle ils travaillent. Bon, première chose, je me dis, tiens, j'ai pas envie qu'une police comme ça voit le jour dans mon territoire, les maniques, pour pas nommer Genève. Comment ça s'est passé pour que la police finalement soit plus qu'une armée d'occupation? Bien, des propos tenus par les collègues, l'occurrence du commissariat de Sainte-Saint-Denis, 260 jeunes collègues qui ne savent absolument pas ce qu'ils font là au milieu. Bien, donc y a-t-il une volonté politique ou pas, la question est soulevée. Deuxième observation, c'est que on me dépeint effectivement une banlieue gigantesque, malmenée, dangereuse, incivile. Et puis j'entends, je prends le véhicule, je passe derrière la basilique de Saint-Denis dans laquelle sont enterrés les rois de France, pour l'anecdote. Et puis je découvre la Courneuve, la tour Balzac, une vie sociale, des gens, des femmes, des enfants, des jeux, des places vertes. Alors certes, ce n'est pas le 16e parisien, mais je vois une vie. Et mes collègues m'amenaient dans cette région en me disant, tu vas voir, c'est Modaguichio, c'est l'enfer, tout est rasé, et puis fais bien attention, on doit se cacher, on doit pas dire qu'on est policier, fais attention à ta démarche, n'ouvre pas les fenêtres. Enfin, j'avais l'impression véritablement de circuler avec des parano qui s'imaginaient le meurtre à tous les coins de rue. L'observation de l'Helvète, puisqu'on m'appelait d'ailleurs comme ceci, l'Helvète qui venait sur un terrain qu'il connaissait pas, n'était pas du tout en adéquation avec la peinture finalement que me présentait du ministère de l'Intérieur aux polices locales.
Là, Frédéric Maillard, vous voulez rajouter quelque chose?
Tout l'enjeu de notre livre, en effet. C'est-à-dire, le policier qui se dirige vers cette évolution-là, entre guillemets, hein, que dépeint très justement Yves-Patrick Delachaux, l'amène à changer de camp, à changer de profession et à devenir un militaire. Et à preuve du contraire, le militaire agit en situation de guerre et pas en situation de paix. Donc là, il y a un très grand vice de forme, extraordinairement grave. C'est d'ailleurs pas le même métier, c'est pas du tout les mêmes configurations. Le jour où on a la guerre, le policier, d'ailleurs, il a plus de pouvoir. C'est une police militaire qui prend... Enfin, c'est très grave, une telle évolution. Ça, c'est l'évolution, je dirais, géopolitique. Il y a une évolution aussi purement professionnelle. Entrer dans cette logique, c'est à terme remplacer le policier par des robots. Parce que, imaginez-vous, des robots sont précis. Beaucoup plus précis que peut l'être un être humain dans l'interpellation. Jamais fatigué, travaille 24 heures sur 24, ne se plaignent pas pour les heures supplémentaires, ne vont pas revendiquer leurs tarifs salariaux, etc. Ça nous amuse, et en même temps, c'est exactement ce qui se produit. Il m'est arrivé de consulter plusieurs procès-verbaux de communes dans notre pays, où on a licencié des agents municipaux au profit de caméras et au profit d'autres moyens électroniques de surveillance. Donc, la métaphore, si vous voulez, elle est là, elle est présente, hein. Les robots arrivent. Voulons-nous une police robotique, ou voulons-nous une police capable de discernement, qui descend de son véhicule, qui appréhende, parce que le crime, il est là, et face au crime, moi, je veux bien admettre, et j'encourage la police la plus équipée, une police d'intervention extraordinairement rapide, qui peut-être aura une logistique militaire en la circonstance. Mais le fond, l'organisation policière, c'est une organisation d'appréhension. Ça n'est pas une organisation de réaction toujours trop tard. C'est un policier qui connaît son quartier, qui sait où c'est chaud, qui peut tenter de l'appréhender, tenter de prévenir, faire jouer les acteurs sociaux, et qui, en tout cas, n'a pas peur de s'y promener. Là, il y a l'enjeu de notre livre, je le répète.
Alors, ne pas avoir peur de s'y promener, c'est vite dit, évidemment, puisque l'attitude même des policiers fait que dans leur relation avec la population, et ça vous le décriviez dans vos livres précédents, Yves-Patrick Delachaux, ou dans les comptes rendus ou les reportages que vous avez faits à l'occasion de votre visite en Seine-Saint-Denis, l'attitude même des policiers, effectivement, est celle d'une armée d'occupation. Le simple fait de dire bonjour de la part du policier vers quelqu'un qu'il croise dans la cité est une forme de provocation. Et lorsque vous dites bonjour à un jeune, on vous dit, mais t'es complètement fou, tu vas...
Oui, on m'a même semé de cesser mon helvétisme, de dire bonjour à tout le monde. On m'a traité un peu de bouseux et en me disant c'est bien chez vous, vous avez ces formes de politesse. Tu te rends pas compte si un policier dit bonjour à un jeune, c'est les esclandes et on risque tout. Bon, alors bien entendu, là la question après de se dire, si on en est là, ça devient très difficile. J'insiste sur le fait que les collègues policiers, pas qu'en France, les collègues policiers qui me parlent comme ça sont des victimes. Hein. Je me permets jamais de faire des remarques qui seraient désobligeantes vis-à-vis d'eux, d'autant plus que ce sont des jeunes policiers. Mais je peux tout simplement pas plus accepter. Il faut s'engager de façon citoyenne et se dire non, c'est absolument pas ce que je souhaite. Je mets le doigt sur des exemples extrêmement pratiques. Sortons de France, revenons en Suisse. On constate tous depuis 5, 6, 7 ans que l'uniforme policier aujourd'hui est un uniforme de combat. Une casquette de baseball, des gants noirs, un blouson ou un t-shirt, des pantalons bouffants et souvent des rangers. Je fais partie de ces policiers qui ont encore porté le costume, la cravate et la casquette qui couvrait un chef. Un détail de ce type-là m'a fait penser, entre mes observations européennes et suisses, en me disant, mais quels sont les irresponsables politiques ou institutionnels qui un jour se sont décidés de affubler les policiers d'une casquette de baseball.
Dans certains cas, ça venait des policiers eux-mêmes qui disaient que leur uniforme à l'ancienne avec costume, cravate, n'était pas tout à fait adapté pour courir après des types sur des toits.
Pas de souci, adapter des uniformes, c'est une chose. Par contre, à un moment donné, c'est pas le policier qui fait la police. Si on prend une région, Genève, avec toute son envergure internationale, je veux dire, il y a les responsables politiques qui peuvent se pencher sur l'équipement, en se disant, nous on veut pas simplement des bandes, une bande policière qui s'affronte avec une bande de jeunes, mettez tous des casquettes de baseball et tout ira mieux. Non, il faut que les gens aient une représentation, je fixe pas que sur l'uniforme, hein. J'entends, mais quand nous parlons de représentativité, de flics de quartier, de sécurité, on pourrait déplacer sur l'éducation ou sur d'autres corps de métier. Sur mon métier policier, j'observe une longue dégradation sur un plus sécuritaire. Alors, monsieur Maillard parle de technicité, parle de vidéos, de robotique. J'observe simplement autour de moi que les véhicules ne sont pas nécessairement adaptés. Par exemple, comment vous pouvez m'expliquer qu'à Genève, les commissariats se sont dotés depuis à peu près moins d'une année de motos, des 250 Trial de couleur noire?
Tu peux impressionner l'adversaire, c'est du marketing.
Impressionner qui? Attendez, les policiers qui se jouent à ça sont des guignols, c'est des enfants. Le niveau de conscience policière institutionnelle au niveau de ce type de politique, c'est un niveau adolescent. Où est l'adulte policier qui est capable de se prendre en main, d'affirmer une conscience professionnelle, un fondement policier, en disant, mais on n'est pas là pour la galerie, on est là pour faire du travail d'investigation, pour faire du travail de policier, pour représenter avec fierté notre profession.
Mais c'est pas un milieu où on réfléchit à la société, dites-vous aussi, également.
Alors, c'est là le problème.
Ce qui est quand même assez paradoxal, puisque c'est le milieu le plus en prise directe avec la société, finalement.
Écoutez, je pense que...
Avec les hôpitaux et...
Évidemment, c'est le seul métier au sens qualificatif de notre pays, le seul métier de l'humain. Hein, on a des métiers sociaux, c'est autre chose, c'est des mises en lien communautaires ou réhabilitation de personnes en marge, quelle que soit leur marginalité. Et puis, on a des métiers soignants, etc. Et le métier de l'humain, donc la pâte à modeler du policier, c'est le corps à corps, c'est l'interpellation de l'autre. Hein. Toutes les enquêtes, tout ce qu'il produit... nous amène à l'humain. Et c'est bien le profil de l'humain qui intéresse. Donc c'est le seul métier de l'humain. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que les formations qui parlent de l'humain, de cette élévation-là, c'est 1% du temps de formation. Donc je dirais que ce qui nous permet d'affirmer ce que vient de dire Yves-Patrick Delachaux, c'est bien que nous sommes retournés au fondement du métier, au fondement historique. D'où vient ce métier? Quelles ont été les habiletés qui, au fil du temps, ont été confiées aux policiers, jusqu'à cette assermentation, jusqu'à la possibilité pour le policier, et c'est le seul en exécution concrète sur le terrain, de pouvoir limiter les droits humains. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? interpeller une personne, la maintenir en garde à vue alors qu'elle est présumée innocente jusqu'à 24 heures. Ça n'est pas rien. N'importe quel autre citoyen qui pratique, il est arrêté pour kidnapping, etc. Donc, une prise d'otage. Donc, si vous voulez, là, ces fondements de policiers nous permettent de dire qu'il a besoin, effectivement, de cette capacité autre. Et donc, la représentation, elle vient ici. Finalement, elle est secondaire, sauf s'il n'y a plus que ça qui le tient.
Yves-Patrick Delachaux et Frédéric Maillard sont nos invités pour ce livre, donc « Policiers, gardiens de la paix » dans la collection « La question » aux éditions de l'Eb. Je ne sais pas si vous connaissez K, jeune chanteur lausannois. Non, vous ne connaissez pas K.
Non, seulement.
Alors voilà, K, il a écrit une chanson qui s'appelle « Le flicard, le voici ».
J'en ai marre d'être un flicard. Moi j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Tu crois peut-être que ça me fait marrer, balancer des contraventions et de surveiller ta chaussée, petit con, moi j'en ai marre. Contenir les manifestants, se faire bombarder de pétards. Tu crois peut-être que c'est bon dans le petit anard. Moi j'en ai marre. Je voudrais bien passer la barrière et vivre de l'autre côté avec les clodos, les grands-mères et les drogués. Mais autre part, j'en ai marre d'être un flicard. Ouais, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je voudrais bien partir à la mer, hors de la ville, au scrogneux mieux, et puis troquer mon revolver contre un peu de ciel bleu, bleu, bleu. Est-ce que lundi je vais rentrer bosser sous mon képi azur pour me faire traiter de poulet? C'est pas si sûr, il faudra voir. J'en ai marre d'être un flicard. Moi j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je pourrais faire du bénévolat pour les enfants des émigrés. Je pourrais partir à Ouaga ou à Calais, à Zanzibar. Tant pis pour ma grosse moto et pour mon super gyrophare, pour ma combinaison costaud et mon pétard. Je me barre, je me barre, je me barre, je me barre. Là je suis assis sur la plage et y a le bruit de l'océan. J'ai ramassé des coquillages comme un enfant. C'est le panard.
Le flicard, signé K, 13h41 sur la première, à première vue, en compagnie de Frédéric Maillard et Yves-Patrick Delachaux, pour ce livre « Policier, gardien de la paix, 21 questions relatives au fondement du métier de policier en Europe ». C'est bien précisé, en Europe, et c'est publié aux éditions de l'Eb dans la collection « La question ». On a évoqué la police de proximité, la polprox, comme on dit. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin dans le détail. Cette suppression de police de proximité, qui était celle que nous avons toutes et tous connue, c'est-à-dire le flic de quartier qui connaissait tout le monde, qui disait « petit, arrête de faire des bêtises », a été remplacé, évincé, il a complètement disparu au profit d'une police très voyante, des brigades d'intervention, et ça c'est un fait que l'on peut remarquer un petit peu partout en Europe. Donc une façon de faire très éloignée du flic de proximité, qui est beaucoup plus brutal, qui est décentralisé et qui en fait convient mieux aux caméras. Alors est-ce que ça serait pas simplement la suppression de cette police de proximité, une vue électorale à court terme, c'est-à-dire que pour faire du bruit dans les médias, du bruit médiatique, on supprime le flic de quartier et on crée une police très télégénique, si je puis dire. Avec pas nécessairement la même efficacité.
Merci de le dire à notre place. Certes, première des choses, c'est que l'une des polices n'exclut pas l'autre. C'est un, un peu une erreur d'imaginer, rapidement dit, qu'il y ait une police de proximité qui exclut finalement une police d'intervention. Non. On est dans un concept d'organisation qui fait que dans votre carrière et dans les missions, vous êtes parfois à l'extrême, hein, tireur d'élite et la résultante est que vous allez certainement neutraliser violemment quelqu'un. Vous êtes dans une brigade d'intervention, vous faites de l'enquête, vous êtes dans des stupes ou ailleurs, et puis vous êtes le flic de quartier qui doit travailler justement en négociation et là dit aujourd'hui police de proximité. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Ça peut être le même personnage qui fait dans sa carrière plusieurs choses. Donc c'est important de le dire et le redire. C'est pas parce qu'on part sur une police de proximité que c'est angélique, que ce sont des éducateurs, des sociaux, et puis que alors du coup le flic qui intervient, il est où ? Hein, on est sur les mêmes personnes. La réflexion de proximité, elle est justement tout autre au niveau de la citoyenneté. Et je m'exprimais un peu tout à l'heure là-dessus. Alors là, je pense, pour votre question qui est de l'ordre politique, je me suis souvent interrogé à qui finalement bénéficiait le crime. J'ai certainement souvent été très naïf en me disant deux possibilités. Soit une immaturité, une inintelligence, manque de perspective, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les outils, qui est un haut responsable. Ça peut être politique, et qu'imagine effectivement que le flic, son travail, c'est uniquement l'interpellation. Ça, on peut imaginer, hein, parce que j'entends des cerveaux vides, on en trouve partout. Deuxième possibilité, c'est qu'il faut bien que ces actions de démantèlement de police de proximité rapportent quelque chose. Et là, on rentre dans le côté électoral. Alors, je balance entre les deux, parce que j'ai rencontré des naïfs et des gens vides, creux, très haut dans la hiérarchie et en politique aujourd'hui aussi. Et j'ai rencontré des méchants, des tout méchants, qui ont des vues et des perspectives politiques. Mon cœur balance, j'ai de la peine à m'exprimer sur les raisons exactes. En tout cas, il est clair que si aujourd'hui des quartiers, que ça soit en Suisse ou ailleurs, sont sécurisés, il est sûr qu'il y a une bonne partie de l'électorat qui va certainement dévier ou changer son observation et ses avis affinité politique. Le thème de la sécurité, de l'insécurité, est tout bénéfice à certains partis politiques.
Frédéric Maillard.
Oui, alors, j'apporterai un complément sociologique. La capacité de mobilisation, parce que la police, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est une garde républicaine, hein, avec des chefs qui sont fiers de pouvoir la mobiliser en quelques heures. L'appel retentit au cœur de la nuit, vous êtes 300, 400 réunis dans une caserne avec un leitmotiv très fort, pour ne pas dire un endoctrinant certain, et puis on vous envoie au combat. Alors évidemment, cette capacité de production, hein, très visible, qui rassure aussi la population, doit trouver en face un ennemi. Voilà. Alors, le fait de construire une police de proximité, c'est évidemment atténuer les différences, c'est évidemment entrer en médiation, c'est avoir des zones grises, et plus le blanc et le noir, le gentil et le méchant. C'est entrer dans une complexification sociologique. Si vous n'avez pas les clés pour la discerner, voilà. Alors, ne les ayant pas, n'étant pas dispensé en cours, il est beaucoup plus facile de mobiliser un corps de vaillants gaillards, heureusement de plus en plus intégrés par les femmes, avec quelques policiers qui commencent à résister en disant « Non mais ça peut pas être aussi simple, s'il vous plaît, on a arrêté 40 personnes aujourd'hui, mais les gros bras continuent de courir, on sait que c'est dans les appartements feutrés que se cachent les cerveaux, etc. » Et on y va là. Et puis pour cesser ou interpeller des auteurs de pédophilie sur Internet, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes pratiques. Donc, il y a évidemment aujourd'hui une réflexion qui se fait à ce niveau-là. Mais encore cette capacité de mobiliser, elle est quand même très très efficace quand vous avez un ennemi qui est dépeint en face.
Elle vient d'où cette sorte de pensée unique de politique sécuritaire ? Parce qu'au fond, on se rend compte que là, on parle de police, on parle de ville, on parle de quartier, on est dans des pays en paix, on n'a pas ces problèmes-là. Mais on se rend compte qu'au fond, ces stratégies-là qui consistent à construire un poste avancé, alors ça fera référence à Conrad que vous aimez, Patrick Delachaux, mais c'est un poste avancé au Congo, c'est-à-dire que...
Au cœur des ténèbres. Belle littérature.
Hein, absolument.
Merci.
Je rappelle que le type qui vit dans le poste avancé, à la fin, il devient fou, le Belge. Mais il faut se méfier. C'est intéressant. On se rend compte que, effectivement, les fonctionnements de police, tels que vous nous les avez décrits, consistent à supprimer les commissariats de quartier et la police de proximité et à construire des postes avancés. Donc une espèce de forteresse comme ça grillagée avec les véhicules à l'intérieur et des hommes surarmés qui en sortent de temps en temps faire quelques coups d'éclat. Et on se rend compte qu'au fond c'est exactement la même chose dans la manière de traiter les conflits. Là je parle bien des guerres aujourd'hui, c'est le cas en Afghanistan où l'ISAF présente en Afghanistan, essaie de faire beaucoup de choses pour ramener à elle la population dont une grande partie dans certains endroits se fout totalement de savoir ce qu'est l'Afghanistan parce que pour eux ça n'existe pas, ils sont avant tout d'une ethnie ou d'une région. Et d'autres sont terrorisés par les talibans. Et donc, cette stratégie consiste à prendre une vallée, construire une place forte et puis tenter de rester là, vaille que vaille, en disant regardez, maintenant, cette vallée, elle a été reprise aux talibans. La preuve, on a construit une place forte avec des types qui restent à l'intérieur. C'était ce qu'on a beaucoup reproché aux Italiens, notamment. C'est-à-dire qu'ils avaient construit une place forte, ils restent à l'intérieur. Et autour, qu'est-ce qui se passait? Rien. Et on commence à changer de stratégie, c'est-à-dire qu'on introduit des actions civiles accompagné par les militaires. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la police, de la manière dont on traite les conflits aujourd'hui dans des pays avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, le reste du monde, mais dans lesquels nous avons décidé de rapporter le bien, finalement? Au fond, la police fait la même chose.
Mais bien sûr. Mais cette lecture, elle est relativement évidente. On voit que les armées n'ont fort heureusement, mais Dieu merci, plus de rôle à jouer en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest. Et donc la police se substitue. La police se substitue à ces armées. Et ce sont des stratégies militaires. Pourquoi ce sont des stratégies militaires? Parce que les dirigeants de la police aujourd'hui sont des juristes ou des militaires. Donc des juristes qui sont rigoureux sur le fonctionnement interne, qui vont vous créer des polices des polices. Bientôt, on attend la police des polices des polices. Donc, on est dans cet ordre de répression, y compris interne. Hein. On se surveille, on s'auto-surveille, on met des surveillants.
Et on est sanctionné si on ne fait pas des chiffres.
Etc. Mmh. Donc, cela, évidemment, pousse tous les policiers à imaginer les combines les plus inimaginables pour, évidemment, échapper à ce contrôle. Donc, les exactions sont toujours plus sournoises, toujours plus cachées. Quand les micros sont enclenchés, quand les caméras sont enclenchées, le policier est ultra poli.
Il parle comme dans les rapports. Hein. C'est très frappant. Quand on lit Yves-Patrick Delachaux et son rapport au quotidien du langage des policiers, quand on les voit ensuite à la télévision, les types parlent comme des rapports. Ils disent, oui, alors l'individu a été interpellé. Alors que c'est quand même un langage un petit peu plus fleuri.
Alors, je peux vous dire...
Mais vous savez, tellement, c'est tellement vrai que j'avais envie d'ajouter tout à l'heure que lors de mes pratiques policières, quand nous étions mobilisés pour partir en manifestation, on m'a toujours présenté les personnes comme des adversaires. Alors, bien sûr que justement, à 6 heures du matin, vous retrouvez à 300 pour filer en fourgon blindé sur la place des Nations à Genève, vous arrivez, il y a 3 Tibétains, mais ça fait 2 heures qu'on vous bourre le mou avec les adversaires. Les fêtes de Genève, ce sont des adversaires alors qu'on est face à des femmes et des touristes et des enfants. Bon, etc. Donc, dans le langage, hein, les plans dessinés, soit sur un trottoir, soit sur du papier, sont des opérations militaires. Alors, encore une fois, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. Il y a des opérations de police où on est dans cet ordre d'événements, de maintien de l'ordre.
Voilà. Oui, parce qu'en face, il y a un vrai danger. Hein. Il faut quand même, évidemment, rappeler ça. On court le danger, le policier court le danger.
Hein. Alors que la majorité, la grande majorité, peut-être le 80 ou le 90% du travail policier, qu'on soit inspecteur ou qu'on soit gendarme, patrouilleur en uniforme, c'est du gardiennage de paix, c'est du maintien de paix, c'est de la résolution des conflits dégénérescents, c'est de l'intelligence sociale. Le policier peut être quelqu'un d'extrêmement intelligent avec les outils qui lui sont mis en main pour faire son travail. Ce ne sont pas les 10% de courses de gendarmes aux voleurs. Et là, on retombe sur ce que vous avez mentionné plusieurs fois, c'est que l'interpellation, la garde à vue, le showbiz n'intéresse personne, ça épuise les policiers. Quand les policiers, quand les corps de police s'expriment, quand ils vous parlent de lassitude, de départ, de stratégie de défense, de maladie, pire, de suicide et autres, c'est tout simplement une profession qui se meurt. Je parlais de voler mon métier, une profession qui se meurt parce qu'elle se cherche sans vraiment retrouver un sens de sa mission, parce que en partie elle-même, en partie de l'extérieur, on l'a poussé dans ces derniers retranchements qui sont de faire de la parade.
Donc, juste Frédéric Maillard, pour continuer sur cette, au fond, collusion de pensée entre opérations militaires et stratégie policière. Je faisais référence à l'Afghanistan, effectivement, on change de stratégie en se disant on va quand même faire des actions civilo-militaires, c'est-à-dire qu'au fond, on réintroduit une présence de proximité civile, cette fois-ci aux côtés des militaires. Est-ce que c'est un signe qu'effectivement, si les militaires réagissent de cette façon-là, très vite, la police, les polices vont elles aussi réfléchir à leur mode d'action.
Oui, au point de penser que les militaires évoluent plus vite dans leur action que les policiers.
Bah, ils sont là, en l'occurrence, dans un danger tellement immédiat et quotidien.
Mais c'est ça, c'est la rupture.
Qui... une nécessité.
Et aussi une nécessité de démantèlement. Et moi, c'est quand même ce qui m'intéresse. Hein. Les criminalités sont de plus en plus complexes. Il suffit de lire les rapports de la police fédérale. Il y a lieu de trouver des polices aujourd'hui qui soient capables de démanteler ces réseaux de criminalité. Le reste, je dirais, c'est un peu de la cosmétique. Ceci dit, il y a là un vrai danger. Alors, peut-être vous allez être surpris, mais ce que nous craignons par-dessus tout, Yves-Patrick Delachaux et moi-même, c'est que l'assermentation, ces fameux pouvoirs exceptionnels qui sont confiés aux policiers, leur soient retirés à force de commettre et de jouer aux militaires. Parce que la population va se dire, mais attends, donner une assermentation à des troupes militarisées qui viennent contre nous, nous préférons donner cette assermentation à des animateurs socioculturels. Nous préférons donner cette assermentation et ces pouvoirs exclusifs à des gens qui sont ressortissants d'université, à des gens qui sont capables de démanteler un réseau de pédophilie sur Internet. Et nous n'allons pas à des auxiliaires qui courent, qui seront remplacés par des robots très vite, leur confier un pouvoir aussi grand. C'est pas nécessaire. On les appelle quand on a besoin. Ils arrivent en rouleau compresseur. Ils agissent, ils écrasent. Et puis on les renvoie en caserne, au garage. C'est ça le danger. Et moi, je veux pas que la police perde son pouvoir. Parce que la police, elle est représentante de l'État. Elle est représentante des droits humains qui constituent notre pays. On ne peut pas trouver meilleur acteur pour garantir notre sécurité qu'un policier. C'est bien la raison qui nous fâche, c'est que ce policier perde sa faculté de soutenir son métier à terme.
Donc de ne plus être gardien de la paix.
Exactement.
Hein, c'est ça en fait, ce que vous nous dites, si je comprends bien, Frédéric Maillard. Je rappelle qu'avec Yves-Patrick Delachaux, vous êtes l'auteur de ce livre « Policier, gardien de la paix, 21 questions sur les fondements du métier de policier en Europe ». On n'a évidemment pas parcouru ces 21 questions dans cette heure d'émission. Il faudra à peu près une heure par question, vous connaissant tous les deux. Juste une question qui m'intrigue chez vous, Yves-Patrick Delachaux. Vous êtes passionné d'histoire coloniale. Est-ce que la fréquentation de nationalités multiples dans une ville multiculturelle comme Genève est quelque chose qui vous a conduit à vous interroger sur les mouvements de migration, sur l'autre en fait, dans votre métier de policier?
Bon, ça, évidemment, c'est une partie de la réponse. Hein,
je me doute bien.
Travailler surtout dans une configuration d'un quartier populaire m'a jeté dans les difficultés humaines et la migration. D'ailleurs, ça a été mes premières actions policières, ça a été d'imaginer par le manque d'outils de pouvoir être en relation interculturelle avec les policiers. Donc ça, c'est tout un vent, disons, de mes recherches aussi vis-à-vis de la police et de la société. Après, il y a un fondement. Je crois que nous sommes donc dans une éducation, dans un contexte, tout en chacun, et de façon personnelle, j'ai depuis tout le temps valorisé les aventuriers, très mauvais élèves, puisque j'étais tout le temps déjà en vadrouille. Et cette aventure-là m'a fait toucher la littérature, au fantasme, je dirais, hein, parce que je ne valorise absolument pas l'époque coloniale et le colonialisme, mais je me suis penché sur ces messageries maritimes, cette épopée de ces paquebots qui, de Marseille, du port de la Joliette, filaient à travers le monde jusqu'à Yokohama. Il y a quelque chose pour moi qui m'a de tout temps fait sortir de mon petit schéma personnel, de ma petite pensée, je dirais, lémanique, en me disant, mais j'ai envie un jour de traverser le monde en paquebot. Et au fur et à mesure de mes aventures aujourd'hui littéraires, ça a été de retrouver des traces. Quel pied de retrouver une opiumerie clandestine perdue entre le Cambodge et le Laos. Et
puis,
c'est affreux pour les gens qui le vivent. C'est un commerce fou. Mais moi, je suis dans mes caisselles. Vous avez nommé Conrad. Je suis dans mes auteurs, dans ces grands aventuriers. Mais ça m'appartient, je dirais. Oui. C'est certainement très enfantin. Et je suis satisfait de ça.
Bon, puisqu'on est dans les enfantillages, vous savez que si vous étiez appelé Nicolas Yves-Patrick Delachaux, vous seriez une star absolue.
Si vous me parlez Nicolas, je pense à Nicolas Bouvier, mais allez-y plus loin.
Non, parce que vos initiales, ça ferait NYPD.
Magnifique.
Voilà. Oui, bon, ben voilà, il y a des jours, on est un petit peu plus fatigué que les autres. Le cerveau qui part en vrille, c'est la chose qui arrive. Frédéric Maillard est donc désormais NYPD. Nicolas et Patrick Delachaux. Je vous remercie d'être passé nous voir pour nous parler brièvement de ce livre policier gardien de la paix. C'est paru, je le rappelle, aux éditions de l'EB dans la collection La Question. Ce sont 21 questions posées sur les fondements du métier de policier en Europe. Nous n'avons fait qu'effleurer, bien évidemment, la surface de ce livre. Je laisse le soin aux lectrices et aux lecteurs de s'y intéresser plus avant. Et puis, si nous avons parlé de voyage, du port de Marseille, de la Joliette et des fumeries d'opium, eh bien, je vous présente alors quelqu'un qui connaît ça par cœur. C'est Mélanie Croballion.
Vous êtes trop gentil, pipici.
C'est pas vous qui avez parlé de vos expériences avec l'opium Non.
En tout cas, ce ne sera pas le cas cette semaine, puisqu'on ne parle pas du tout d'opium à Saint-Louis du Sénégal.
Non.
C'est là qu'on est. Mais vous avez déjà vu une carte de Saint-Louis du Sénégal
Assez rarement.
Non, je vous en ai imprimé une parce que je pensais bien. Donc voilà, regardez.
Ah, mais ça ressemble à
Marseille. C'est incroyable, hein, parce qu'on dirait, une dentelle. C'est incroyable.
Oui, c'est très joli.
Il y a plein d'eau. Et puis il y a plein de bouts de terre qui traversent ces eaux. Alors on va parler de ça aujourd'hui, de la géographie étrange de Saint-Louis du Sénégal avec notre invité Abdoul Sow, qui est spécialiste en urbanisme et en architecture et amoureux, grand amoureux de la ville de Saint-Louis. Il n'est pas saint-louisien, il est sénégalais, il a découvert Saint-Louis sur le tard, mais il tombe amoureux de cette ville et il a travaillé dessus.
Pourquoi s'appelle-t-elle Saint-Louis ?
À cause de Louis XIV.
C'est ça ?
Oui, parce que ce sont des marins normands qui ont fondé cette ville au XVIIe siècle. Et puis, en honneur à leur roi, Louis XIV, qui régnait à ce moment-là, mais ils l'ont appelé Saint-Louis.
Voilà, et puis après, il y a eu la Louisiane, et puis après...
Ouais. Mais elle ne s'appelle pas Saint-Louis en Wolof.
Non, j'imagine bien. Comment s'appelle-t-elle en Wolof ?
Ndar.
Oui. Ndar.
C'est dingue, vous me posez avec plein de questions, j'arrive à répondre à toutes les questions
incroyable.
Aujourd'hui.
Je suis impressionnée. Je suis sidérée. Voilà, donc Saint-Louis du Sénégal à découvrir tout à l'heure dans un dromadaire sur l'épaule après les infos de 14h. Merci à Nathalie Schoenberg pour la programmation musicale de cette émission qui fut brève car nos débats furent plus longs que les disques. Merci également à Bastien Meucli qui était à la technique aujourd'hui. On se retrouve demain, nous parlerons de photographie, nous parlerons des 20 ans de l'agence lausannoise Strat en compagnie de deux personnes qui y travaillent encore et toujours.